à voix nue. Cette semaine, Zoé Sfès s'entretient avec Suzy Morgenstern. Ce soir, une Américaine à Nice, écrire et vivre entre deux langues. Bonsoir Suzy Morgenstern.
Bonsoir, c'est vrai.
Suzy Morgenstern, vous êtes cette auteure de littérature jeunesse. Vous avez écrit pour les enfants, pour les adolescents, aussi pour les adultes. Vous êtes l'une des auteurs les plus lues, les plus recommandées aussi par l'éducation nationale. C'est important de le dire, on lit beaucoup vos livres à l'école. Beaucoup d'enfants découvrent aussi vos livres par l'école. Mais on le disait hier, quand on parlait de votre enfance, vous ne vous destiniez pas nécessairement de manière consciente à un métier d'écrivain. Votre destin, c'était de vous marier. Vous vous êtes mariée avec un homme qui était français. C'est comme ça que vous êtes arrivée à Nice. Un homme qui était mathématicien, comment est-ce que vous l'avez rencontré, ce Jacques Morgenstern, et comment vous êtes devenue comme ça, votre destin a basculé pour devenir un destin de femme française?
C'était le vrai coup de foudre. Je l'ai vu de loin. Et je suis allée tout droit vers lui. C'était à Jérusalem. Il est venu pour quelques jours seulement au congrès pour la logique, la mathématique et la philosophie de la science. Moi, la science, les maths, c'était ma bête noire. Je l'ai vu, je suis allée tout droit vers lui.
Qu'est-ce que vous faisiez là-bas, vous?
Moi, j'ai fait une année d'études à Jérusalem. Ce qu'on appelle junior year abroad. J'étais très, très heureuse. C'était parce que non seulement on était juifs, mais on était très, très, très pro-Israël. Israël était aussi un idéal de vie. Alors, j'ai eu une bourse pour aller en Israël, j'étais contente, je parle l'hébreu. J'ai adoré mes études là-bas et puis j'ai rencontré, peut-être la première semaine que j'étais là, j'ai rencontré Jacques. Mais il était là 3 jours et puis il est disparu.
Et vous aviez, vous, jeune femme, toute jeune,
19 ans,
vierge, vous l'avez dit, tout à fait innocente des choses de l'amour. Vous avez eu le courage d'aller voir ce jeune garçon que vous connaissiez pas du tout.
Ma mère disait, quand on était ado, il va pas venir. Quand elle m'a pris en flagrant délit de lire, elle disait, il va pas venir frapper à ta porte à Belleville, New Jersey. Il faut sortir, il faut t'exposer. Mais en même temps, elle nous donnait beaucoup confiance à moi et mes sœurs. Et j'ai jamais fait tapisser. Wallflower, c'est le mot en anglais. Si j'allais à des booms, j'allais prendre la main d'un garçon inconnu et je dansais avec lui. Et il était reconnaissant.
Il n'y avait pas la peur des garçons.
Il y avait la peur de faire tapisserie, ouais. La peur de ne pas être
arriver.
Populaire, la peur de ne pas avoir un rancœur samedi soir, ouais. mais pas la peur des garçons. Ils étaient utiles à ça. Ils étaient assez inutiles, mais ils nous valorisaient.
Donc vous rencontrez ce garçon, vous avez 19 ans, vous le dites dans vos livres, vous vous sentez pas très bien dans votre peau à l'époque, vous vous sentez moins belle que vos sœurs, moins belle que Sandra, qui était la beauté
toute
absolue.
Toute ma vie, moins belle que mes sœurs, oui, pas belle, et puis toujours grassouillette, bien que les photos de l'époque, j'étais pas très grosse. Tu vois, dans la tête fait tellement de choses. Et puis, il était... D'abord, il parlait très mal l'anglais. Moi, mon français était inexistant. J'étais avec une amie qui s'appelle Simona, et elle parlait français.
Ah,
Alors, elle faisait l'interprète. Et puis, il nous accompagnait à notre cours en chantant auprès de ma blonde. Auprès de ma blonde, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, il fait bon dormir. Et ma copine était offusquée. Elle a dit, you can't believe the shit he's singing. Quelle merde qu'il chante. Que c'est cochon et tout. Et bon, moi je l'aimais. Il aurait pu dire n'importe quoi, je l'aimais.
Vous l'aimiez comme ça, ah, immédiatement.
Ah oui. C'était un dieu assyrien, biblique. Il avait un kippa. Et il était un dieu, oui, un dieu. Et puis il est disparu. Et il m'a dit, j'ai votre adresse à l'université. Je te contacterai. Et il a écrit en mai qu'il allait venir. Et moi, je n'ai pas quitté ma chambre pendant une semaine. Il n'a pas dit le jour. Je suis pas allée au cours. Je suis restée. Je guettais les pas. Et puis il est jamais venu. Et deux mois après, il m'a écrit une autre lettre en disant il est pas venu. Je m'en suis aperçue. Mais il m'a dit, pourquoi vous ne passez pas par Paris en rentrant à New York. Alors, bon, il fallait vendre l'idée à mes parents. Et finalement, il m'a inscrit dans un cours de français où je ne suis jamais allée, mais c'était assez pour que ma mère accepte. Et puis là, c'est allé très vite. Moi, je rentrais à l'université, il est venu en Amérique nous voir, puis il est venu une deuxième fois, et ma mère lui a dit, quand il est arrivé à la porte, je peux organiser le mariage en 2 semaines. Et il a fait venir ses parents, et on s'est mariés, et il est resté en Amérique le temps que je finisse l'université, que je ponde le bébé Lily. Et puis, j'ai vu qu'il n'était pas heureux, que ça ne... Les Français, c'est pas très facile, c'est pas très émigrant. Il était malheureux s'il n'y avait pas le monde au kiosque, s'il n'y avait pas... il n'aimait pas la nourriture, les gens ne parlaient pas français... Il était pas heureux et je me suis dit que si je veux garder le bonhomme, j'ai intérêt à aller chez lui. Et jusqu'à aujourd'hui, je sais pas comment j'ai pu faire comme un truc comme ça. Quitter mes sœurs, quitter ma mère, quitter ma langue, mon pays. Maintenant, en ce moment, je dis que je suis réfugiée politique, mais à l'époque... Et j'étais complètement inconsciente.
Avec un tout petit bébé et très jeune, 22 ans.
Oui. À Nice. Tout de suite, on vivait chez ses parents dans 2 pièces.
Comme beaucoup de jeunes couples à l'époque. On se mariait jeune et on faisait un peu comme ça.
Et puis mon beau-père a trouvé un appartement à louer, meublé, chez Jacques Le Fourreur.
Et alors justement, vous arrivez en France, comment est-ce que vous vous appropriez ces lieux, cette culture, vous qui êtes une femme, effectivement, du livre, du langage, de la communication?
Le lendemain de notre arrivée, Jacques m'a inscrit à la faculté des lettres de Nice. Moi, j'aurais pas fait tout ça. Ils ont pas reconnu à l'époque mes diplômes américains. D'une bonne université, pourtant. Et j'ai refait la licence. C'était 68. Alors, j'ai eu la licence grâce à 68 parce que ils ont fait sauter plein d'examens. Et je l'ai eu, je sais pas comment. Et puis j'ai fait une maîtrise, et puis j'ai fait un doctorat en littérature comparée. Tout ça, c'est Jacques qui poussait, c'était Pygmalion. Ma mère m'avait dit, ça, c'est pas un homme qui va se satisfaire d'un bon dîner et de linge propre. Il faut faire plus pour lui. Et j'ai fait. Il me poussait, je me poussais, et puis, quand j'ai fini mon doctorat, je savais que je voulais pas faire la critique littéraire, lire des livres pour critiquer. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. J'avais deux filles tout de suite qui m'inspiraient beaucoup et j'ai commencé à écrire. Mon tout premier livre, c'était un livre de coloriage parce que j'étais illustratrice à l'époque et mon tout premier livre, c'était en alphabet hébreu.
1977, parce que ouais. Vous dessinez aussi, mais là, vous êtes en train de me dire, à l'époque, j'étais illustratrice. Comment c'est venu tout ça, ces liens comme ça, vos dessins?
J'ai toujours dessiné, j'ai fait de l'histoire de l'art et des ateliers à l'université. J'ai arrêté parce qu'il y avait tellement mieux que moi.
Pourquoi vous n'êtes pas devenue cette grande universitaire que votre mari aurait peut-être aimé que vous soyez, d'ailleurs?
Je crois que j'étais pas bonne. J'étais pas assez bonne. J'ai passé l'agrégation. J'ai eu zéro à l'agrégation. Et mon mari a dit, c'est parce qu'ils sont gentils et ils donnaient pas des notes négatives. Non, je crois que c'était... J'ai toujours enseigné. J'ai enseigné 38 ans à l'Université de Nice, mais c'était une corvée pour moi. Écrire n'a jamais été une corvée. D'ailleurs, j'ai arnaqué l'éducation nationale pendant 38 ans parce que quand j'avais absolument envie d'écrire, je faisais passer un interro et j'écrivais.
Parce que vous étiez prof, donc vous avez enseigné l'anglais essentiellement pour la technique.
Oui, pour l'informatique. L'anglais aux scientifiques et informatique, oui. Dont je connaissais strictement rien. Je crois que j'étais un imposteur. Et je connais rien de la grammaire, même en anglais. Parce qu'on n'en apprenait pas la grammaire. Alors, quand mes étudiants me posaient des questions, genre le prétérit, machin, truc. Je dis, ah, je vous dirai la semaine prochaine, et puis je demandais à mes enfants.
Alors justement, vous avez ces enfants, vous êtes professeur, et il y a l'écriture qui reprend, disons, qui prend cette fameuse première place. Comment vous commencez à écrire des livres pour enfants en français?
Quelqu'un m'a dit récemment que je me cachais dans le français. Et c'est peut-être vrai. J'ai commencé à écrire un livre quand j'avais 50 mots. C'est vraiment bizarre. Je suis un cas très bizarre. C'est comment oser parler français? Je viens de finir un roman de Gary Steingart, Lake Success. Lui, c'est un Russe immigré aux États-Unis. Quelle belle langue, quelle belle prose. Et j'étais un peu jalouse. J'aimerais peut-être maintenant écrire en anglais, voir où ça m'amène. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire. Je suis limitée.
Mais cette limite, forcément, c'est ça qui a dû vous attirer au début. J'ai lu un jour que vous disiez, en anglais, j'ai conscience de mes propres limites. J'ai l'impression que ce que j'écris est nul. Alors qu'en français, finalement, c'est autre chose.
Je suis inconsciente. Je ne sais pas ce que je fais. Alors c'est très bien. Je suis très critique. Quand j'écris en anglais et en français, je suis complètement béate. J'écris une phrase et je trouve ça génial. C'est une cachette, en quelque sorte. Une cachette de la famille, encore, parce que personne ne lit mes livres. Des sœurs, aussi proches qu'on puisse être, elles savent pas ce que j'écris. Et ce que j'écris, c'est ce que je suis. Et elles n'ont aucune idée. Aucune idée.
Grâce à la langue.
Et, je sais pas. Je pense qu'on connaît mal l'autre. On connaît personne. Le livre que j'ai écrit quand Jacques est mort, c'était mon livre de deuil. Mais j'ai commencé, je connaissais rien sur cet amour de ma vie.
C'est un livre qui s'appelle Jacques a dit, qui est un livre que vous avez écrit, je crois, dans l'année qui a suivi, un peu plus tard, la disparition de votre mari. Très jeune, très prématuré, avec une cinquantaine d'années. Et effectivement, c'est la première fois que vous en parliez ouvertement de cet amour-là, même si vous aviez écrit, vous l'aviez évoqué. Vous avez l'impression que lui, ça ne lui aurait pas plu aussi. Il y a une forme de pudeur partout à chaque fois.
Ah oui, il était pudique. Moi, je ne suis pas du tout. Ma source d'inspiration, c'est ma vie. J'écris tous les jours dans mon journal intime. Je commence la journée avec mon journal intime, comme quand j'étais petite. J'écris tout ce qui m'est arrivé dans la journée. Et c'est ça la continuité de toute ma vie. Et ça, j'écris en anglais. Mon journal intime est en anglais. Donc, c'est une drôle de position. C'est un engrenage. J'écris en français maintenant alors que j'aimerais bien tenter d'écrire en anglais. Mais j'ai tous mes éditeurs à satisfaire. Des éditeurs qui me disent « Quand est-ce que tu vas écrire un autre livre ?»
Vous lisez les traductions anglaises de vos livres écrits en français alors que vous pensez en anglais ?
Je pense en français quand j'écris en français. Mais les livres en anglais étaient traduits par ma très grande amie Gillian Rossner, qui est morte l'année dernière. Et elle me téléphonait toutes les 5 minutes pour dire « Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça ?» Et les traductions de Jill, ça donnait, et comme elle est anglaise, ça donnait une classe, vraiment une classe. Je lisais les traductions en anglais. Je peux lire les traductions en hébreu. Mais c'est tout. Je sais même pas où est mon nom, en chinois ou en coréen.
Vos filles, vous les avez élevées dans quelle langue? Il y en a une qui s'appelle Alia, chez qui nous sommes, avec qui vous avez publié un livre qui s'appelle La langue. Un super livre qui décrit, car elle est linguiste, l'émergence du langage. Vos enfants, du coup, vous écrivez, vous pensez en anglais, vous avez un mari qui est français. Quelle est la langue qu'il y a déjà dans votre histoire d'amour entre Jacques et vous? Et comment vous élevez vos filles? Dans quelle langue?
Avec Jacques, on a toujours parlé anglais parce que moi, je ne parlais pas français. Et avec mes filles, j'ai fait la guerre. Pour parler l'anglais, j'étais militante, brutale. Je faisais la sourde oreille si elle me parlait en français. Alors, le résultat, c'est qu'elles allaient raconter toutes leurs histoires d'école à leur père, parce que c'était plus facile. Je parle toujours anglais avec mes filles et même avec mes petits-enfants maintenant.
Pour en revenir à cette vie française et niçoise particulièrement, comment vous découvrez ce pays? Qu'est-ce qui vous apporte?
Je crois que j'ai mis longtemps à aimer la France comme je l'aime aujourd'hui. Et là, je l'aime. Je suis amoureuse de la France maintenant. Sauf quand je pense à 42, des rafles. Il y a toujours cette blessure. Jacques est mort très jeune, mais il a à peine survécu la guerre. Il est né en 1939, c'était un enfant caché par des bonnes sœurs à Paye et puis par des résistants. Son père a été déporté à Auschwitz. C'était une enfance très, très dure. Et il n'a pas survécu. Il n'a pas survécu. Et moi, j'ai hérité tout ça. Alors, bon, la France, je n'aimais rien. Je n'aimais rien. Et je disais tout le temps, ils sont fous. Ils sont fous. Fous à la tête. C'était bizarre, c'était étrange, tu vois. On mange très bien en France, mais j'appréciais pas. Pour moi, le vin, c'était un médicament pour la toux. Je pouvais pas l'avaler. Je n'aimais pas le fromage. Je n'aimais pas à Nice, il y a le mesclun. Je trouvais que qu'est-ce qu'on veut me faire manger des mauvaises herbes. Et je languissais beaucoup. Ma famille, mais en même temps, j'étais très amoureuse de Jacques et de mes enfants. C'était un épanouissement, c'était la réalisation de tous les rêves qui m'ont été imposés.
Le mariage et la famille et ouais. Les enfants, et en plus, vous avez eu deux filles. Vous qui étiez d'une famille si matriarcale.
Ah oui, je ne pouvais pas imaginer avoir un garçon. Et c'est pour ça que tous mes livres, je parle des filles. C'est des filles. Je ne sais pas ce que c'est un garçon. Avec mes petits-fils, c'est venu un peu.
Alors, justement, vous vous mettez à écrire. Ce premier livre, c'est l'alphabet hébreu. Vous avez ces petites filles, vos filles, qui vous inspirent, Alia et Maya. À quel moment ça démarre, cette histoire de littérature jeunesse?
Ça s'est enchaîné. Tout de suite. J'ai écrit « Je n'ai rien à faire et je ne sais pas quoi faire » parce que j'ai rencontré un éditeur fou qui voulait bien les publier.
« Je n'ai rien à faire, je ne sais pas quoi faire ». Il y a presque une référence à Pierrot le fou.
Que je ne connaissais pas.
Je me suis demandé, mais en fait, vous ne le connaissiez pas, ce film, à l'époque.
Non, c'est juste que Maya s'ennuyait tout le temps.
Et, votre fille.
Ouais. Et puis, j'ai écrit La Grosse Patate et je me rappelle encore d'avoir la première phrase en beau français qui est « Tout ce que j'aime faire dans la vie, c'est manger, manger, manger. » Et puis, j'ai fait la liste de tout ce que j'aime manger. Des frites, la soca, la pissaladière. Et c'est des livres que j'ai illustrés moi-même. Puis je crois qu'il y avait une vieille histoire qui a eu une très longue vie. Mon premier livre illustré par Serge Bloch, c'était l'histoire de ma belle-mère qui va envoyer ses enfants se faire cacher. Et j'en ai marre de ma sœur, la rivalité entre sœurs. Et on est tout près de l'éditeur, c'était La Farandole, c'était l'éditeur du Parti communiste. Et puis ça s'enchaînait. Quand Maya était en sixième, j'ai écrit la sixième et puis ça s'est vraiment déclenché.
La sixième, ça a été un de vos premiers grands succès publics. Vos premières sources d'inspiration, c'est quoi? C'est vos filles?
Ouais, c'est mes filles, puis mes petits-enfants, ma vie, la vie de tous les jours. Ça peut être autre que mes filles, mais la vie de tous les jours. Je suis pas un écrivain de fantastique. Je n'aurais jamais pu avoir l'imagination pour écrire Harry Potter. Je suis vraiment très terre à terre et c'est ça, c'est la vie, la tranche de vie.
Comment est-ce que cette nouvelle communauté, là, je ne sais pas, d'éditeurs français qui vous font confiance, qu'est-ce que ça crée chez vous? Et qu'est-ce que Jacques, qui vous avez, disons, aiguillé sur cette carrière universitaire, comment c'est reçu chez vous, pour vous? Qu'est-ce que ça a fait pour vous de devenir cet écrivain jeunesse? Qu'est-ce que ça a créé?
C'est vrai que c'est une communauté, une famille, une grande proximité avec ma maison d'édition, mon éditeur, Arthur Hubschmidt, qui vient de prendre la retraite. C'est dur, je me sens orpheline. On a travaillé ensemble pendant 45 ans. Il était énorme pour moi dans ma vie. C'est mon identité, c'est vraiment écrivain de jeunesse. Écrire pour des adultes, c'est pas une promotion pour moi. Et puis, on a vraiment un rôle important parce que faire aimer lire un enfant, c'est lui faire un beau cadeau. Oui, il y a une grande reconnaissance ces dernières années. Avant, c'était... Je ne disais pas que j'étais écrivain. Qu'est-ce que vous faites? Et je suis professeur. Mais tout d'un coup, à un moment, j'ai dit « je suis écrivain ». Et les gens disaient « ah, qu'est-ce que vous écrivez? Des livres pour les enfants? » Oh. Tout le prestige de l'écriture est tombé d'un coup. Mais je m'en fous.
On en parle demain, justement, de concrètement, qu'est-ce que c'est d'écrire pour les enfants, à hauteur d'enfants? Qu'est-ce que les enfants lisent, ou comment est-ce que vous pensez les choses pour les enfants, pas nécessairement pour leurs parents? On parle de l'écriture pour les enfants, demain, avec vous. Suzy Morgenstern, merci.
Merci, Zoé.
Vous retrouverez demain la suite de cet entretien de Zoé Sfez avec Suzy Morgenstern. À voix nue. Prise de son, Yvan Turc. Réalisation, Guillaume Baldi. Attaché de production, Daphné Abgral. Coordination, Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.